là. Rebonjour à tous et à toutes. On va essayer de reprendre maintenant pour cette deuxième table ronde à laquelle nous avons trois invités présents et présentes. Et notre modératrice pour cette table ronde consacrée à ce qu'on l'a appelé pour une coéducation famille-école. On reviendra évidemment sur ce qu'on entend par ce terme-là. Donc c'est Candice Barret, qui est experte égalité, qui fait de la prévention du sexisme et en éducation non sexiste, qui est formatrice formée en ludopédagogie, qui exerce dans sa structure la puce à l'oreille. On parlait tout à l'heure de personnes susceptibles d'intervenir en milieu primaire. Ben, en fait, Candice fait ça à la puce à l'oreille, notez-le. Elle a aussi monté un dispositif avec sa collègue Bénédicte Delataille, qui est peut-être par là, je ne sais pas. Elles ont fait un forum menstruel qui s'appelle Sans dessus dessous. Voilà, et donc je tenais à vous le dire aussi, et je l'ai mis aussi dans la communication, puisqu'il est déplaçable et il peut être convoqué quand on a envie de mener une action sur les règles, les menstruations, hein, d'autres termes plus, plus scientifiques. Merci beaucoup pour cette réponse positive à notre invitation. Et Candice, je te donne la parole. Au bout de 55 minutes, je mettrai en route une petite clochette. Et puis au bout d'une heure pile, rebelote pour terminer. Donc ce sera normalement pendant la petite séance de questions ou à la fin de la petite vidéo. Ça dépend comment vous l'avez calée, puisqu'on a une intervenante, on va dire, déportée en vidéo qui nous a fait un témoignage. Et donc on y viendra. Merci à vous.
Merci et bonjour à tous et à toutes. Merci Violaine pour cette invitation et pour ce rôle de modératrice qui, j'avoue, me sort un petit peu de ma zone de confort, mais ça va aller. je suis ravie du sujet, c'est un sujet qui me réjouit tant par la thématique que par les invités qui sont avec nous aujourd'hui. Et moi, le constat que je peux avoir sur les enjeux de coéducation, c'est que lorsque j'interviens auprès des différents publics qui travaillent avec des enfants, souvent, ce qui ressort, c'est que les professionnels de crèche vont dire « Ah non, mais c'est pas chez nous le problème, tout va bien, c'est l'école le problème. » Et l'école va dire « Ah non, mais c'est pas chez nous. Nous, il n'y a pas de sexisme, nous, on est OK sur ça. Les enjeux, ils se jouent du côté des parents. » Bon, à partir de là, si on part de ce constat-là, c'est pas très constructif. Et je crois qu'il y a un véritable enjeu, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble, à comment créer des ponts, créer des passerelles, avec le postulat selon lequel plus on sera nombreux et nombreuses à s'engager autour de ces sujets, plus on arrivera à se positionner du côté des enfants. Je crois, en tout cas, notre fil directeur aussi, pendant cette table ronde, pendant cette heure, ce sera d'aller sur les enjeux de responsabilité, de responsabilisation, mais aussi de déculpabilisation. Vous allez le voir, on a un format une heure qui va être un petit peu hybride. Nous, on n'a pas de PowerPoint, mais on va amener des moments de lecture, on va amener aussi du contenu vidéo et également une interview croisée de nos invités que je présente rapidement, vous me complétez s'il faut. Donc Kevin Dieter, vous êtes enseignant-chercheur en sociologie. Vos travaux se situent à l'intersection de la sociologie, la socialisation, de la sociologie de l'enfance et de la sociologie des sentiments. Dans vos travaux, vous abordez une approche intersectionnelle qui mêle genre, âge et également classe. Et votre thèse de doctorat a porté sur l'enfance des sentiments, la construction des sentiments amoureux et affectifs chez les 6-11 ans. Est-ce que c'est OK? Lolita Rivé, vous êtes professeur des écoles et journaliste. Vous avez réalisé le podcast « C'est quoi l'amour maîtresse ?», un documentaire hors série du podcast que vous connaissez peut-être, « Le cœur sur la table », créé par Victoire Thuaillon. Et dans votre podcast, on y entend vos interventions d'Evras dans votre classe avec donc des élèves de CE1. Petite précision peut-être pour ceux qui ont été parachutés ici, l'Evras, donc éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. On parlera aussi d'éducation à la sexualité, ça ira plus vite. Donc tout d'abord, merci à tous les deux d'être avec nous. Avant de vous donner plus amplement la parole, nous avons souhaité inaugurer cette table ronde avec un extrait de l'ouvrage « Nos enfants, nous-mêmes », petite publicité, qui est un manuel de parentalité féministe à laquelle tu as participé, Laetitia. Ouais. Donc nous avons avec nous Laetitia Latapi, et tu es également dans l'association Parents Féministes à l'initiative d'une pétition, je vous invite à aller signer, qui s'intitule « Pour une éducation affective, relationnelle et sexuelle pour tous les enfants », qui a déjà recueilli plus de 18 000 signatures. Yes. Du coup, à toi la... Comment ? Qui est toujours en ligne. Je te laisse la parole.
Bonjour à toutes et tous. C'est quand mes enfants sont entrés à l'école et qu'elles m'ont raconté leur journée que j'ai eu l'impression d'être dépossédée de l'éducation que je voulais leur donner. Les pratiques éducatives me sont apparues tellement peu pensées pour que filles et garçons se sentent libres. J'ai été choquée par le livre d'apprentissage de la lecture utilisé au CP. Le message était que les garçons ne devaient pas se mélanger aux filles. Un garçon s'était trompé et devait retourner dans son groupe. L'enseignante s'est étonnée que le livre soit recommandé par l'Éducation nationale. Mon indignation a continué avec les évaluations différenciées en cours de sport, le découragement organisé des filles et l'humiliation des garçons non sportifs. L'enseignante proposait par exemple de faire soit des pompes normales, soit des pompes de filles. Et la liste est longue, comme avec cette surveillante de cantine qui plaçait toujours une fille à côté d'un garçon en pensant qu'elle serait forcément sage et lui forcément dissipée. Ou le fait que toute la cour soit occupée par des garçons jouant au foot, qui se blessaient sans que ça ne remette en cause quoi que ce soit, tandis que des filles avaient consacré un petit espace sur la pelouse à leurs acrobaties, ce qu'on leur a interdit à la première blessure, au lieu de sécuriser leur pratique. Sans oublier l'injonction au collège de ne pas porter de short un jour de canicule. Mais là, ma fille a tenu tête toute seule à l'assistante d'éducation. Chaque fois, c'est l'occasion d'ouvrir une discussion à la maison, et souvent aussi avec l'adulte concerné, sur le juste et l'injuste. L'indignation est un moteur, et en tant que parent, on a notre rôle à jouer. Thelma, 49 ans. Je représente parfois les parents d'élèves au conseil de classe. Au cours d'une discussion sur l'orientation en terminale, j'ai demandé qu'on reprenne les appréciations dans les bulletins de plusieurs filles. Le prof principal avait mis « élève souriante » ou « élève agréable ». J'ai fait remarquer que c'était inapproprié et sexiste. Le proviseur a immédiatement consenti, très gêné. L'enseignant aussi, visiblement amusé. Mais personne d'autre que moi n'avait relevé. Beaucoup d'appréciations de ce type sont sûrement passées et continueront de le faire. Yolande, 50 ans. Si les inégalités sociales conditionnent largement le parcours scolaire de nos enfants, celles liées au genre posent également un gros problème. Malgré des avancées évidentes dans l'histoire du système éducatif, programme scolaire identique depuis 1924, mixité depuis 1975, accès théorique au même diplôme, etc., des inégalités structurelles demeurent. Le Code de l'éducation enjoint à, j'ouvre les guillemets, encourager un climat scolaire serein, assurer un cadre protecteur, sans comportement ni violence sexiste, et favoriser la mixité et l'égalité en matière d'orientation. Je ferme les guillemets. Dans les faits, les personnels d'enseignants et d'éducation, dont les missions sont cadrées par un référentiel de compétences, rappelant qu'ils doivent concourir à favoriser l'égalité filles-garçons dans leurs pratiques professionnelles, sont très inégalement formés sur l'histoire des droits des femmes et des mouvements féministes, des LGBT-phobies et l'éducation non sexiste. De plus, les moyens mis en œuvre en faveur de cette égalité, heures consacrées aux cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, espaces de parole, projets autour de la mise en lumière de l'histoire des mouvements féministes, etc., manquent depuis des années.
Merci, Laetitia. Vous voyez, on rentre directement dans la thématique, on met un peu les pieds dans le plat. On voit qu'il y a encore énormément, enfin, il y a un gros travail sur comment impulser une éducation égalitaire au niveau de l'éducation nationale, un travail qui n'est pas toujours fait, un travail qui n'est pas toujours incarné. Du coup, je commence avec toi, Kevin, je te vois qui réagit. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu observer sur le terrain avec les enfants et surtout, quelles sont les répercussions de ces discours que les enfants peuvent entendre et qui ne sont pas en faveur de l'égalité ?
Bonjour à toutes et à tous. Juste pour préciser, durant ma thèse, j'ai été pendant une année entière dans une école primaire où j'étais avec les enfants... à peu près de 8h du matin à 18h. Donc, je suis resté à peu près 1000 heures avec eux, à les suivre dans leur journée d'enfants et d'élèves. Et concernant les inégalités, en fait, elles sont un peu près, enfin, partout présente en fait. Il y a, elle passe, enfin, souvent, il y a donc Christine Détré aussi là. Elle aime bien l'expression mine de rien. Et en fait, c'est un peu ça, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, de vecteurs qui sont assez invisibles dans la production du genre et dans la production des inégalités à l'école. Ça peut être tout simplement par le fait, on s'en rend pas souvent compte quand on est enseignant ou enseignante, mais on parle garçon-fille, on les oppose directement. Ou alors, pour moi, ce qui me concernait, puisque moi, je m'intéressais à la manière dont ils apprenaient à définir l'amour et l'amitié, c'était la coloration toujours genrée qui faisait des sentiments. Les sentiments, c'était quelque chose, donc avait un genre, un sexe. C'était donc l'amour était quelque chose fait par et pour les filles et avait pour particularité d'être toujours tendu vers l'autre genre. C'est-à-dire que l'amour était défini toujours en fonction, une relation amoureuse était toujours définie en fonction du genre des deux enfants. Si deux enfants jouaient et qu'ils et elles étaient de sexe différent, c'était des amoureux-amoureuses. Alors qu'on reprenait la même interaction et que c'était deux enfants du même sexe, ça devenait des amis et restait des amis, et y compris lorsque elle pouvait, je dis elle parce que c'était souvent les filles qui pouvaient reprendre le script amoureux enfantin, c'est-à-dire de se faire des bisous, des câlins, de se donner la main. Donc voilà, après il y a beaucoup de, enfin là je prends que des exemples là, mais elle passe assez rapide, enfin par beaucoup de vecteurs différents en fait. Voilà, je sais pas si je...
Merci. Et peut-être qu'on peut préciser du coup quelles sont les conséquences selon vous de cette socialisation différenciée à l'amour. Ça serait quoi concrètement qui se joue au niveau des enfants, Lolita? Je te... Kevin.
Pourquoi sur la socialisation? Le fait est que, enfin, quand on présente aux enfants, en fait, j'avais dans un des articles que j'avais produit, j'avais montré qu'en fait, ça leur donnait deux choses. Le fait de donner un genre aux sentiments, et donc le fait de les mettre du côté des filles et des femmes, faisait d'une part que les garçons dans la cour de récréation les tenaient à distance. Et là où ça m'avait, une des choses qui m'avaient le plus marqué, c'était que je n'avais jamais vu autant les garçons pleurer que le jour de la Saint-Valentin. Et pourquoi? Parce que, en fait, on les traitait, ils me disaient ça, ils venaient me voir en me disant on m'a traité d'amoureux. Parce que, voilà, il y avait une fille qui avait importé, qui lui avait donné un cadeau, donc ce qui faisait montrer qu'il était dans une relation, et ça se fait pas quand on est un garçon, parce que ça nous place du côté féminin, et donc on perd notre rang de dominant, de garçon, quoi. Et la deuxième chose qui est produite par cette socialisation sexuée, c'est qu'on a tendance à reproduire le système hétéronormatif. C'est-à-dire, encore une fois, de ce que je présentais tout à l'heure, comme on présente notamment, par exemple, quand on fait des booms ou quand on demande aux enfants s'ils sont des amoureux, à chaque fois, on distingue d'un côté les filles, de l'autre des garçons, et comme s'ils étaient nécessairement tendus l'un vers l'autre. Et qu'il n'y aurait pas d'autre solution que l'amour n'aurait pas d'autre forme que celui que de la forme hétérosexuelle. Et donc en fait, ils apprennent ça dès le plus jeune âge. Et en fait, c'est à tel point intériorisé que un moment, par exemple, quand j'étais dans la cour de récréation, j'étais en train de discuter avec une enseignante de CM1, et puis à deux ou trois occasions, il y a des enfants qui viennent me voir en me demandant est-ce que je suis amoureux de la maîtresse. Et plusieurs fois, je suis là en train de me dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de, pourquoi ils me demandent ça? Et en fait, je me suis aperçu plus tard que, comme j'étais à côté d'une fille et que j'étais pas en train de faire ça pour montrer que j'étais pas intéressé ou pour montrer mon désintérêt envers la fille qui était à côté de moi, forcément c'était mon amoureuse, puisque je respectais les scripts enfantins qui étaient que quand un garçon et une fille sont côte à côte, c'est qu'ils sont amoureux, amoureuses. Donc voilà.
Merci. Effectivement, dans ce côté socialisation différenciée du genre, de l'amour, de l'apprentissage des sentiments amoureux, il y a ce côté qui est très difficile à venir, contrebalancer, dans la mesure où c'est quelque chose qui est très, et tu l'as dit, banalisé, insidieux, et peut-être que toutes et tous, on a participé à ça. Moi, je donne un exemple tout bête que souvent je retrouve en formation, de quand deux enfants, filles, garçons, jouent ensemble, il y aura toujours, vous pouvez être persuadé, un adulte qui va dire « Ouh, les amoureux, qu'est-ce qu'ils sont mignons !» Ça aussi, qu'est-ce que ça dit que, qu'est-ce que l'adulte renvoie à l'enfant ou des enfants en bas âge où, oh là là, bah, ces deux-là, on va les marier. Regardez un petit peu autour de vous, ça arrive rarement quand c'est deux enfants du même sexe. Donc ça aussi, c'est comment est-ce qu'en tant qu'adulte, est-ce qu'on projette, est-ce qu'on conditionne, est-ce qu'on façonne au sentiment amoureux et à l'hétéronormativité. Lolita, je te donne la parole, toi, pour venir un petit peu contrebalancer tout ça. Et avec ton rôle de professeur, tu mènes du coup des séances d'Evras avec tes élèves de CE1. À quoi est-ce que tu t'es confrontée? Comment ça se passe? Comment est-ce que tu as réussi à porter un petit peu tout ça? Est-ce que tu peux nous témoigner de ton expérience?
Ouais, donc moi, je suis enseignante depuis 6 ans seulement. Et c'est vrai que quand je suis revenue à l'école, depuis mon enfance, je n'avais pas fréquenté d'école. Je pensais vraiment que l'école avait changé. Un peu inconsciemment, je me suis dit, on est en 2019, ça a dû beaucoup changer depuis que moi, je suis enfant, quoi. Et en fait, j'ai trouvé l'école hyper violente pour les enfants, entre eux, peut-être même plus que dans mon souvenir. Et donc, c'est un peu ça qui m'a confrontée à l'éducation, à la sexualité. J'ai commencé à en faire sans m'en rendre compte, en fait, parce qu'il y avait des besoins, parce que c'était grave. Donc, on parle d'enfants de 8 ans, 9 ans qui se disent sale pédé, des enfants de CM2 qui disent grosse pute à leurs camarades, filles, enfin, des choses ultra violentes que peut-être en grandissant naïvement, on pense que ça n'existe plus en enfance, et peut-être que nous, dans notre enfance, c'était pareil. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très dur, et je me suis dit, on ne peut pas juste leur dire « Oh, ben non, hein, c'est pas gentil de dire ça, t'es puni. » Il fallait à tout prix que je leur parle de ce que c'était un PD et une pute, en fait. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire des espèces de débats, de séances en classe, sans stigmatiser personne, mais en disant « Voilà, j'ai entendu ça, j'ai entendu ci, est-ce que vous savez ce que c'est, qu'est-ce que vous en pensez ?» pour les amener en fait à, pour leur donner des outils surtout de compréhension de ces insultes, de ce que ça voulait dire, de ce qu'ils avaient ramené en fait, de ce qu'ils avaient entendu sûrement dans leur famille, chez leurs parents peut-être, enfin. Et donc c'est comme ça que ça a eu, enfin j'ai vu que ça avait un gros effet en fait sur les enfants, parce que pour eux l'école, et ça encore c'est hyper inconscient, mais pour eux l'école c'est là où des adultes nous apprennent à lire, écrire, compter, blabla. Et quand on donne la parole aux enfants et qu'on les écoute et qu'on leur permet de poser toutes les questions qu'ils veulent, ça les surprend, ils n'ont pas l'habitude du tout. Et donc c'était hyper intéressant ce qui se passait pendant ces séances parce que j'entendais des choses qu'on n'entend pas en fait. Et les enfants pouvaient parler de choses dont ils ne parlaient jamais, ni à l'école, ni chez eux, parce que souvent c'est tabou, on ne va pas demander « Maman, c'est quoi une pute ?» quand on a bien compris que c'était un truc grave, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc c'était hyper puissant en fait ce qui se passait dans ces séances. Moi c'était des CM2 au début, donc ils avaient quand même 10 ans. Et c'est des enfants qui par exemple au cours de l'année pouvaient, je sentais qu'ils s'appropriaient en fait ce qui se passait en séance et qu'ils pouvaient avoir une analyse de ce qu'ils vivaient par ailleurs avec ces outils féministes. Donc je me rappelle d'un petit garçon de CM2 qui vient me voir vers la fin de l'année, qui me dit « Maîtresse, je suis allée à la piscine hier et le maître nageur il a fait une réflexion sexiste. » Je dis « Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» J'étais en train de nager et puis il fallait faire ça. Et puis moi j'avais envie de jouer avec la frite, donc je jouais avec la frite. Et puis il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la natation synchronisée, c'est pour les filles. » Donc je pense que ce petit garçon il a été un peu heurté par la réflexion de ce maître nageur. Mais alors qu'auparavant, il serait juste senti con d'avoir fait un truc qu'il ne fallait pas faire et en plus d'être associé à quelque chose de féminin, ce qui était visiblement dévalorisant, là, il a pu analyser le discours de cet adulte comme quelque chose de pas normal ou de discriminant en tout cas, et que ce n'était pas lui qui était en faute, mais que c'était l'adulte qui avait dit une connerie, quoi. Et je me disais, voilà, si déjà on peut faire ça, donner des outils à nos enfants, aux enfants en général, pour qu'ils puissent analyser ce qui se passe, qu'ils puissent comprendre que s'ils entendent des violences, s'ils les vivent, s'ils les reçoivent, c'est pas forcément eux les. Enfin, c'est pas eux du tout qui sont responsables, mais aussi qu'ils comprennent ce qui se joue derrière, c'est déjà énorme. Et j'ai beaucoup parlé, mais je peux continuer. Ok. Et évidemment, il y avait un autre pendant à cet enseignement, donc il y avait réglé tout ce qui est discrimination et conflit entre les enfants, et puis de l'autre côté il y avait la connaissance de leurs droits mais aussi de leur corps. Et donc en CM2, moi je découvrais qu'en CM2 ils connaissaient rien sur leur corps, sur la puberté, sur ce qui allait leur arriver en fait. Donc ils avaient plein d'idées reçues sur la manière dont on faisait les enfants, sur ce qui se passait dans le corps d'un garçon, je veux dire garçon et fille, désolé pour faire simple, hein, mais voilà, je parle de sexe biologique masculin et féminin. Donc j'explique en CM2, en fait, c'est dans le programme d'expliquer aux enfants ce qui se passe à la puberté. Et donc vraiment là, il partait de zéro, vraiment de zéro. Ah bon. Et surtout le fait de faire ces séances en mixité, enfin de raconter à tous les garçons en fait c'est quoi les règles, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et les garçons étaient hyper attentifs en fait, et étaient hyper intéressés par ce qui se passait. Donc on dit souvent qu'il faut séparer, etc. Je suis pas contre qu'on sépare les enfants pour ce genre de séance, mais je pense qu'à un moment il faut les réunir pour qu'ils entendent tous la même chose. Et donc à la fin, pareil, il y a un petit garçon qui m'a dit, moi, quand mes copines elles auront leurs règles, si jamais elles ont une tâche, je dirai aux autres de pas se moquer d'elles et j'irai leur chercher des tampons et des serviettes, enfin des cups et des culottes menstruelles, pardon. Et voilà, tout ça, c'est hyper joyeux, en fait. Et donc, c'est souvent ce que disait Didier Valentin tout à l'heure, c'est qu'on a souvent envisagé l'Evras comme de la prévention et un truc hyper lourd et dur, et ça l'est aussi. Mais c'est aussi très joyeux parce que tout ça, en fait, on donne du pouvoir aux enfants. En leur donnant de l'information, en leur donnant les mots pour comprendre ce qui leur arrive, on leur donne du pouvoir, on leur donne les moyens de se débrouiller, d'être autonomes et de comprendre le monde dans lequel ils vivent, parce que la plupart du temps, ils sont quand même entourés d'adultes qui leur font comprendre que c'est pas de leur âge, quoi, c'est un peu le truc, c'est pas de ton âge, tu comprendras plus tard, tu verras plus tard. Donc on les maintient dans cette espèce d'ignorance et c'est pas pour eux. Et tout ça, ça les rend hyper vulnérables. Ça les rend vulnérables aux discriminations, aux violences qu'ils subissent. Et puis ça en fait eux aussi des potentiels agresseurs. Et donc le dernier point hyper important, c'est quelque chose que j'ai compris après en découvrant les chiffres du nombre d'enfants qui vivaient des violences intrafamiliales et sexuelles. Je me suis dit, donc ces enfants-là, donc c'est 3 par classe, je me suis dit, mais ces enfants, du coup, ils sont dans mes classes, ils sont devant moi, enfin, je les croise tous les jours. Et s'ils ne sont pas dans ma classe, ils sont dans la cour, enfin, je les croise tous les jours. Et là, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait rien? Enfin, je ne comprends pas. Maintenant, on sait, on sait qu'il y a énormément d'enfants touchés, on sait qu'ils sont là, et rien n'est fait. Et donc, ça a été le dernier axe, et je me suis dit, il faut à tout prix informer les enfants, encore une fois, leur expliquer que ces violences-là, elles sont interdites, qu'ils ont des droits, qu'un adulte, il ne peut pas faire ce qu'il veut, même les parents, qu'on n'a pas le droit de les taper, qu'on n'a pas le droit de les humilier, qu'on n'a pas le droit de les insulter, qu'on n'a pas le droit de les violenter sexuellement, évidemment, mais surtout qu'on doit respecter leur consentement, que leur corps, il leur appartient à eux et qu'ils ont le droit de dire non, ils ont le droit de dire non à un bisou, ils ont le droit de dire non à un câlin, ils ont le droit d'envoyer bouler les adultes et leurs parents. Et ça, c'est aussi une grande inconnue pour les enfants.
Carrément. Et dans ce que tu dis, il y a 2 axes qui nous paraissent hyper importants. Il y a le côté, en fait, l'Evras, c'est censé être quelque chose de joyeux aussi. C'est donner du pouvoir d'agir aux enfants, c'est de leur redonner une connaissance de ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, de leur donner la connaissance sur leurs droits, donc d'aller aussi sur ces sujets-là et pas que sur c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de compliqué. Non, non, c'est vraiment allons-y, quoi. Tout en disant, et c'est ce que tu as bien précisé, que c'est aussi le premier outil de prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc oui, il y a le côté enthousiasmant et joyeux et allons-y, mais il y a aussi ce côté lourd. Mais ce côté lourd, il est aussi important d'avoir en tête, et tu le dis dans les interviews que j'ai pu écouter, les parents n'ont pas leur droit de regard, n'ont pas leur mot à dire sur le contenu des programmes. Dans la mesure où les parents n'ont pas leur mot à dire sur les contenus des cours de mathématiques, ils ne devraient pas avoir leur mot à dire, et c'est important que l'école fasse ce travail d'information, parce que c'est pas toutes les familles qui font ce travail-là. Encore une fois, il n'est pas question de se substituer aux parents, mais d'avoir vraiment un rapport transparent et un travail aussi de comment est-ce que tu arrives à les rassurer, et ça arrive du coup sur ma deuxième question, comment est-ce que toi, tu arrives à rassurer ces parents qui ne sont pas non plus un groupe homogène, il y a des parents qui vont peut-être avoir des craintes, d'autres qui vont être très éclairés, mais comment est-ce que tu fais pour amener ce sujet vis-à-vis de cette fameuse loi de 2001, pardon.
Moi, systématiquement, je commence l'année, donc on a toujours une réunion parents-prof, certains le savent, en début d'année, et moi j'annonce un peu la couleur à cette réunion, sans passer 3 heures, mais je leur dis que, voilà, comme vous n'êtes pas sans le savoir, la loi de 2001 oblige les professeurs à faire ces séances, et voilà l'utilité de ces séances, et voilà les thèmes qu'on va aborder, donc je cite les 6-7 thèmes que je vais aborder. Et je parle aussi des droits des enfants. J'en dis, voilà, on apprend aussi les droits des enfants de la Convention internationale des droits de l'enfant de 89. Je leur dis un peu ce dont je vais parler. Pourquoi je fais ça alors que je rentre peut-être moins dans le détail, sur les maths, le français, etc. Je le fais pour pas qu'ils se sentent trahis, pour pas qu'ils se sentent surpris, pour pas qu'ils se disent, c'est hyper important, elle nous en a pas parlé. Et donc, si elle en parle pas, c'est qu'il y a un truc qui se trame, c'est que c'est louche, c'est que c'est pas clair. Donc moi, je pense qu'il faut être hyper transparent avec les parents. Il y a des profs ou des gens qui vont dire « Ouais, mais tu tends le bâton pour te faire battre. Si tu dis que tu vas parler de, d'orientation sexuelle, on va te dire « Mais c'est pas de l'âge des enfants. » Enfin, bref, plus on en parle, plus on tend le bâton pour se faire battre. Moi, je pense pas. Enfin, oui, c'est possible. Hein, mais je pense que de toute façon, ne pas en parler, c'est sous-entendre qu'il y a un problème avec ce sujet-là. Alors, plus on en parle, plus on va dire « Bah non, il est évident qu'on parle d'homosexualité aux enfants en primaire. » Voilà, tout le monde est d'accord, voilà, personne n'y voit aucun problème. Donc déjà, il faut normaliser ces sujets. Pour les normaliser, il faut en parler aux parents. Et donc moi, je les embarque comme ça et je leur dis que s'ils ont des questions tout à fait légitimes, qu'on peut prendre rendez-vous et en discuter. Voilà. Très souvent, à ce moment-là, tout le monde est OK. Je vois deux, trois têtes qui se renferment un peu. J'en vois qui sont là, oh, super, super. Et voilà, ça s'arrête là. J'ai déjà des parents qui m'ont demandé de leur envoyer le programme précis. Voilà, mais en général, c'est le premier point, et puis après, je suis hyper ouverte pour parler avec eux. Moi, je pense vraiment qu'il faut coéduquer, non pas parce que les parents ont toujours raison et savent toujours mieux ce qui est bon pour leur enfant que le reste du monde, mais parce qu'en fait, les parents sont dans ces familles-là tous les jours. Donc, même si c'est les pires parents de la Terre, bah, les parents, ils vivent avec. Donc, on a tout intérêt, pour le bien de l'enfant, à embarquer les parents et à essayer d'en faire des alliés plutôt que des ennemis. Je ne sais plus quelle était la question. Comment j'embarquais les parents ? Est-ce que j'avais des résistances ? Donc ouais, je vais faire mes petites statistiques personnelles, mais en gros, on va dire que les deux tiers sont. Non, on va dire qu'il y a. Ouais, on va dire qu'il y a la moitié des parents, ils sont contents, c'est bien que ce soit fait. On a, je sais pas, 30% qui sont ah bon, mais c'est quoi, mais quoi, pourquoi ? Et puis il y a une minorité, toujours une minorité qui est pas d'accord, quoi, qui veut pas et qui trouve que c'est pas à l'école de parler de ça, etc. Moi maintenant je fais le lien entre ce que je faisais pas avant, mais je fais le lien entre les chiffres sur les violences qui touchent les enfants et ces résistances. Je me dis qu'il y a peut-être quelque part ça se rencontre, quoi, et que évidemment quand on est un parent qui respecte pas son enfant, hein, clairement, qui respecte pas son consentement, voire qui lui tape dessus, voire qui lui fait subir des violences sexuelles, évidemment que vous n'avez pas intérêt qu'à l'école quelqu'un dise à votre enfant, tu sais que personne n'a le droit de te faire ça et si ça arrive faut en parler. Donc je pense que derrière cette résistance énorme, il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'ignorance, il y a aussi des craintes légitimes, mais il y a aussi cette partie de la population qui n'a pas envie qu'on informe les enfants, en fait, qui n'a pas envie qu'on les protège. Donc moi, je pense que les oppositions de parents, elles sont inévitables. Je dis souvent aux profs, c'est pas parce que vous avez une ou deux familles qui ne vont pas être contentes que vous ne faites pas bien les choses, qu'il ne faut pas le faire et qu'il faut avoir peur. Et je leur dis même, parfois au contraire, s'il y a des gens qui résistent, c'est peut-être que vous faites exactement ce qu'il faut faire. Donc voilà, ces résistances, elles sont inévitables. Et encore, comme il était dit à la table ronde d'avant, en fait, on le fera, quoi. On le fera quoi qu'il arrive, parce que, et c'est l'argument qu'il y a beaucoup des anti-éducation sexuelle, c'est qu'on parle de primauté éducative des parents, que les parents, ils connaissent, ils savent mieux que tout le monde le bien-être de leur enfant, par quoi il passe, c'est ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, cet enseignement, il dit non. Les enfants ont des droits, quelle que soit la famille dans laquelle ils grandissent et les valeurs de leur famille. Ils ont des droits. Un des droits, c'est d'être informé. Un autre droit, c'est de ne pas subir de violence. Quelles que soient les valeurs de votre famille, en fait. Donc cet enseignement, il vient combler ça. Et donc on peut pas informer les enfants en fonction de la famille dans laquelle ils grandissent. Sinon, ça ne ferait qu'accentuer les inégalités. Parce qu'évidemment, les parents qui le font dans leur famille diraient « Super, l'école, allez-y, comme ça, tout est cohérent. » Et puis ceux qui ne le font pas dans la famille, parce que c'est exactement les mêmes qui vous disent c'est aux parents de faire ça et qu'ils ne le font pas. Voilà. C'est aux parents de parler de ça, mais ils n'en parlent jamais. Donc on accentuerait les inégalités, ce qui est vraiment l'inverse de l'objectif de l'école quand même, qui est d'essayer de gommer les inégalités sociales, de donner les mêmes chances à tout le monde, les mêmes infos à tout le monde. Et j'avais un dernier point. Peut-être plus tard.
On parle beaucoup, et on l'a évoqué dans la table ronde précédente, des résistances qu'il peut y avoir du côté des familles, mais c'est aussi important de mettre en lumière toutes les actions qui sont faites du côté des familles et tout le pouvoir que peuvent représenter les parents et la légitimité qu'ils ont aussi à venir, d'une certaine manière, bousculer un peu les institutions. Oui, c'est aussi notre rôle en tant que parents d'aller un petit peu faire en sorte que ça ait lieu, d'aller un petit peu bousculer les professeurs, d'aller vraiment militer d'une certaine manière pour que ces actions elles aient lieu. Mais ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours simple. Il y a la question de la légitimité, mais moi, je ne sais pas trop comment faire. Peut-être que c'est aussi compliqué parce que nous-mêmes, on n'a pas été éduqués à ces questions-là. Donc, on arrive sur la troisième partie de notre table ronde qui va être sur de l'outillage. Mais avant ça, Laetitia, si c'est OK pour toi, je veux bien que tu lises l'autre partie.
Aujourd'hui, je fais des allers-retours entre ce que j'ai vécu et ce que j'essaie de lui transmettre, en particulier sur le consentement. Très rapidement, j'ai imposé qu'elle puisse refuser des bisous, y compris aux gens très proches, aux grands-parents. Embrasser des adultes, ça me débectait souvent quand j'étais gamine et je n'osais pas dire non. Ma fille, elle, sait très bien dire non. Noël, 39 ans. J'ai eu une relation très proche avec mes parents, beaucoup de complicité et de soirées à refaire le monde. La question de la sexualité a toujours été ouverte et la parole libre, ce que j'ai d'ailleurs reproduit avec mes propres enfants, une possibilité de parler, dont l'enfant décide de s'emparer ou pas. Margot, 45 ans. J'ai toujours été à l'aise pour parler de choses intimes ou de sexualité avec mes filles. Avec mon fils, je n'y arrive pas. J'aurais l'impression d'entrer dans son intimité, et ce n'est pas possible. Farida, 53 ans. J'ai eu la chance d'être formée au planning familial pour parler de vie affective et sexuelle avec les enfants dès l'âge de 3 ans. J'ai deux filles et j'ai évidemment fait hyper gaffe avec elles. J'essaie au maximum de banaliser le fait de toucher et de regarder son propre corps. Tout à l'heure encore, ma Benjamine m'a dit dans la salle de bain « Je ne veux pas que tu vois mon intimité. » Consentement, intimité, tout ça, elle est au taquet, à 3 ans et demi. Camille, 38 ans. Quand il s'agit d'aborder avec les enfants les thématiques du corps, de la sexualité, de la vie affective ou des relations amoureuses, on a le sentiment d'entrer sur un terrain miné. De très nombreux tabous subsistent et ne serait-ce que l'association des mots sexualité et enfant peut susciter des levées de boucliers. Qu'y a-t-il de si terrifiant dans le fait d'expliquer aux enfants, en fonction de leur âge, avec un vocabulaire approprié et en respectant leur désir de compréhension du monde, en respectant leurs limites, comment fonctionne leur corps, la sexualité humaine et ce qui devrait régir les rapports amicaux, amoureux ou intimes entre les êtres. Qui a intérêt à ce que les enfants ne sachent pas comment tout cela fonctionne ? Un ou une enfant aguerri est moins manipulable, c'est mieux ce qui est permis ou non. Un ou une enfant qui connaît son corps et le fonctionnement du corps des autres aura plus de facilité à reconnaître ses émotions, ses sensations, à différencier le plaisir du déplaisir, à prendre la parole, à respecter l'intégrité du corps d'autrui, à s'aimer, à poser des limites. De manière générale, parler à un ou une enfant de son corps et lui dire qu'il lui appartient à lui ou à elle, contribue à prévenir d'éventuelles violences.
Merci. Ce qu'on voit dans les témoignages que nous a lus Laetitia, c'est qu'en tant que parents, et c'est important de le dire, nous n'avons pas besoin d'être experts ou expertes en égalité. Nous n'avons pas besoin d'être experts ou expertes en névrase ou en enjeu du consentement. Parce que toutes ces questions-là, ce sont des choses qui se jouent dans le quotidien. Ce sont des choses qui se jouent dans le rapport à l'enfant, dans nos pratiques familiales, sans nécessairement avoir eu un master, sans nécessairement avoir eu une formation. Parce que ce sont par des toutes petites choses qu'on apprend aussi le consentement. Et c'est la coéducation, selon nous, elle passe aussi par le rôle des parents et le rôle dans ces toutes petites choses du quotidien. Et sur cette dernière partie qui est l'outillage, est-ce que Lolita, toi, tu aurais des bonnes pratiques à donner aux parents ?
Aux parents ? Oui, bah, déjà, c'est ce... ça va faire peur à tout le monde, mais c'est de se questionner soi, quoi. Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on se remette en question, nous, en tant qu'adultes, avant de vouloir transmettre un truc aux enfants... sur lequel on est déjà pas hyper à l'aise, nous, déjà, nous poser des questions à nous. Est-ce que mon consentement à moi, il est respecté ? Est-ce que j'écoute mon consentement ? Est-ce que j'arrive à savoir ce que je veux ? Et quand j'arrive à le faire respecter, comment je fais ? Est-ce que moi-même, enfant, on a respecté mon consentement ? Et donc, comment je transmets quelque chose qu'on m'a parfois pas transmis, ou voire on m'a transmis l'inverse ? Donc, c'est déjà... se questionner soi sur ce qu'on transmet malgré nous. Et puis, il faut accepter, comme tu dis, de ne pas tout savoir. Donc, de prendre le temps de réfléchir. En tout cas, se remettre en question dans son rapport aux enfants en général, qui est souvent très vertical. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on a appris. On a appris que les adultes, ils avaient raison, en fait, parce qu'ils étaient adultes et qu'ils savaient mieux que nous, parce qu'ils étaient adultes. Donc, déjà, nous changer ce rapport-là aux enfants en disant bah, « je ne sais pas mieux que lui ce qu'il ressent, en fait ». Et, non, et oui, quand il pleure parce qu'il ne veut pas se laver les cheveux, pour moi, c'est rien. Enfin, c'est de l'eau sur une tête, en fait. Bah, peut-être que pour lui, c'est terrifiant, l'idée d'avoir de l'eau dans les yeux et sur la tête. Et que s'il hurle, eh ben, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, déjà être à l'écoute des enfants, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ressentent, ne pas tout le temps vouloir les rassurer. Mais non, ça va, mais non, t'inquiète pas, mais non, ça ne fait pas peur, mais non, ça ne fait pas mal. Bah, être à l'écoute, en fait. Ah bah ouais, là, je vois que t'as mal. Ah ouais, là, je vois que t'as peur. Là, je vois que t'es triste. On a tout le temps, et ça part d'un très bon sentiment, on veut tout le temps rassurer les enfants. On veut absorber leur peine, absorber leur douleur, absorber tout ça, quoi, leurs inquiétudes, et prendre sur nous. Et en faisant ça, on ne les aide pas, je pense. On les aide pas à ce qu'ils comprennent ce qu'ils ressentent et à accepter qu'en fait, parfois, on ressent des trucs pas cool et que ça fait partie de la vie. Mais qu'on n'en meurt pas, qu'en fait, on s'en remet, qu'on traverse les choses. Donc ça, ça demande beaucoup de travail sur nous-mêmes parce qu'on n'a pas reçu tout ça. Enfin, je dis, la grande majorité de nous n'avons pas reçu tout ça. Et puis, il faut être hyper bienveillant avec soi, déjà, en tant que parent. Donc, quand on crie et qu'on n'aurait pas dû crier, quand on n'est pas patient et qu'on aurait aimé être patient, quand on est dur avec eux et qu'on aurait aimé ne pas être dur, eh ben c'est... Alors qu'on se dit, ouais, putain, j'ai lu plein de bouquins, j'écoute plein de podcasts, je suis hyper au courant, et putain, je viens de gueuler sur mon gamin parce qu'il ne veut pas finir son assiette, et se dire, ok, bah, peut-être que moi, c'est comme ça qu'on m'a traité enfant, en fait. Peut-être que moi, on me criait dessus quand je ne me lavais pas les cheveux, on me disait, t'es chiant quand tu finis pas ton assiette de petits pois, et donc, en fait, tout ce que je retransmets sans m'en rendre compte. Donc, déjà, être bienveillant avec notre petit enfant qui a subi ça, pour comprendre pourquoi on réagit comme ça à nos enfants aussi. Et ça, je pense que nous, ça nous fait bouger, et juste le fait de bouger, ça fait qu'on a un rapport aux enfants très différent. Donc, désolée, je suis un peu généraliste, mais pour moi, avant de parler de consentement et de mots... Enfin, moi, c'est super hein, de parler de consentement, je trouve ça génial. Maintenant, il y a plein de livres, en fait. Il y a plein de livres pour les enfants qui existent, et on a plein d'outils. Enfin, nous, on n'avait pas ça enfant. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle librairie, ils ont... quasiment, hein, mais ils ont des rayons éducation à la sexualité pour les enfants, etc. Donc tout existe, et servez-vous de la littérature, c'est génial. Mais déjà, si on ne fait pas ce boulot de bouger soi en tant qu'adulte dans notre rapport aux enfants, c'est, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler de consentement à un enfant si on le force à se laver les cheveux, quoi. C'est pas grave, il aura les cheveux gras. Et voilà. Mais en tout cas, vous gardez un lien. Parce que je pense que quand on ne respecte pas le consentement des enfants... Et quand on n'écoute pas ce qu'ils ressentent, ben, on abîme le lien qu'on a à eux. Et en fait, ils s'éloignent de nous. Enfin, clairement, hein, quand on abîme un lien, les gens s'éloignent, ils se protègent. Et ça fait aussi des relations compliquées quand on grandit. Donc, soyons humbles.
On parle beaucoup des parents. Et il est évident que ce discours s'applique aussi à tout ce grand village qui gravite autour des enfants, grands-parents, oncles, tantes, amis. Évidemment que ce n'est pas que les parents qui sont en lien avec les enfants. Et pour revenir au sujet de l'éducation à la vie sentimentale, Kevin, j'ai entendu dans une de tes interviews, j'ai trouvé ça assez rigolo, tu dis en tant qu'adulte, en tant que parent, c'est souvent des discours qui sont portés par les femmes aussi, par les mamans, parce qu'un sujet qui est genré, l'éducation à l'amour, et tu dis qu'il serait aussi important que dans les rôles modèles qu'on donne à voir aux enfants, les hommes, les papas s'en emparent un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Je mettais en avant l'implication des papas dans la mesure où je remarquais que les garçons comme les filles avaient plus de facilité à évoquer leurs sentiments, à avoir des amoureux ou amoureuses dès lors que leur père était impliqué dans cette éducation, et en fait ça passait par deux biais qui étaient, d'une part, enfin, notamment chez les garçons, ça contribuait effectivement à défaire le genre qui était associé à l'amour, donc c'est-à-dire que ça le rendait moins féminin pour les garçons, donc ils se sentaient plus autorisés à y aller, parce que aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, la particularité du sentiment amoureux et de l'amour, ou même de la sexualité en général, c'est qu'elle est aussi du côté, enfin, l'amour est du côté des adultes et des femmes, la sexualité serait plutôt du côté des adultes, mais des garçons. Et en fait, le problème des garçons et de l'éducation sentimentale chez eux, c'est que en fait, quand ils en parlent, et quand ils en parlent aussi avec n'importe qui aux adultes, il y a une double transgression. Transgression de genre et transgression d'âge. En fait, normalement, c'est pas encore leur âge, quoi. Ils sont pas censés s'y intéresser. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est que dès lors que les parents, et notamment les papas, participer à poser des questions aux garçons et aux filles sur les sentiments amoureux, ça, en fait, ça autorisait ce sentiment-là à exister pour elle et eux. Et ça contribuait à, ouais, à le rendre abordable. Après, il y a, en fait, aussi, en réfléchissant à ça, il y a une chose qui est importante, c'est, en fait, les discours sont importants, mais les pratiques le sont davantage. C'est-à-dire dire aux enfants il faut faire ci ou il faut faire ça, si on se comporte de manière inverse dans la vie de tous les jours, ils ne croiront pas. Ils croiront plus nos pratiques que nos paroles. Et il y avait pas mal de fois où, quand je discutais avec les enfants, ils me disaient, mais de toute façon, ouais, les adultes, ils nous disent ça, mais eux ne le font pas. Donc, en fait, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Ouais, c'est important, mais franchement, dès lors que je lui pose une question, il me dit qu'on verra ça quand on sera plus grand. Bon, aucune importance. Et en fait, c'est là où je pense que, en fait, c'est pas tant les discours qui sont importants. Donc, je pense que l'éducation à la sexualité est importante. Je pense qu'il est nécessaire que les enfants aient accès à ça pour au moins avoir des centres de clanges différents. Mais ce qui est le plus important, c'est une pratique quotidienne, en fait. Ce serait moins des grands discours que des, en gros, des pratiques, des mises en pratique concrètes auprès d'elle et eux, quoi. Et voilà, c'était un peu cette idée-là que je voulais faire passer.
Non, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Kevin et je rajoute que. Non, que si, il ne faut pas hésiter aussi, je pense, en tant que parent, mais pas que, en tant qu'adulte qui entourant les enfants, il ne faut pas hésiter à défendre les enfants devant les adultes. Parce que souvent, on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on se dit, ce n'est pas mes enfants, je ne vais pas me mêler d'eux, etc. Et en fait, les enfants, c'est très dur pour eux de se défendre tout seuls. De dire à un adulte, écoute, je ne suis pas d'accord, sauf s'il a été hyper bien dressé dans sa famille. Si tu n'as pas envie, tu dis non. Mais la plupart des enfants, même s'ils savent qu'ils ont le droit de dire non, c'est très dur de dire non à un adulte. Donc je pense qu'il faut tous qu'on s'implique là-dedans. Et pour moi, ça rejoint vraiment les luttes féministes et anti-masculinistes. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes des alliés là-dedans. Et il faut qu'on soit des alliés des enfants. Et donc vraiment, quand on voit un adulte qui outrepasse... qui outrepasse ses droits avec les enfants, c'est-à-dire qui ne respecte pas son consentement, qui dépasse les limites, il faut que nous, adultes, on ose. En fait, qu'est-ce qu'on a à craindre, quoi ? Au pire, l'adulte en face, il nous envoie chier. Au pire, le parent, il nous dit, c'est pas tes oignons. Mais l'enfant, il aura entendu. Il aura entendu qu'il y a quelqu'un qui le défend et qui n'est pas d'accord avec cet adulte, même si c'est son parent. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit... Voilà, si vraiment on est engagé dans la lutte pour les droits des enfants, il faut qu'on se mouille. Il ne suffit pas de dire, moi, je respecte le consentement des enfants, c'est super. C'est comme les hommes qui ne sont pas sexistes, c'est super. Maintenant, il faut parler, quoi. Il faut défendre les enfants, il faut oser dire, écoutez, là, je crois, on n'est pas obligé d'être hyper agressif, hein, mais je crois que là, il n'a pas envie de bisous, peut-être plus tard, des trucs comme ça, ou... je ne sais pas, aider un enfant, donc je vais vous raconter ma vie, mais bon, une fois qu'on a chaussé ces lunettes-là, ça arrive tout le temps. On ne voit que ça. Donc moi, je passe ma journée à voir des enfants violentés. C'est très fatigant, et ça me met dans des états pas possibles, et surtout, je me sens obligée d'intervenir, donc souvent, j'interviens, et je me dis, qu'est-ce qui marche, quoi ? Qu'est-ce qui marche pour intervenir, pour défendre un enfant sans braquer l'adulte, etc. Alors déjà, on pense souvent qu'on va aggraver la situation. On n'aggrave jamais la situation d'un enfant qui est en train d'être violenté. Ça ne peut pas être pire. Ils ne vont pas le tuer devant vos yeux parce que vous avez parlé, quoi. Donc c'est jamais plus grave. Souvent, ça coupe la dynamique et les adultes, enfin les parents, c'est souvent les parents, ça coupe la dynamique. Donc, dans un train, par exemple, l'autre jour, j'étais à côté d'une mère, d'un père et de leurs deux enfants, et il y avait un gamin qui était en sixième, et la mère essayait de lui faire ses devoirs, et il n'en avait rien à foutre, quoi. Et c'était le dernier jour avant la rentrée, et on sentait que la mère était là, c'est demain, c'est lundi, t'as pas fait tes devoirs. Et je me mettais à sa place, hein, j'étais vraiment en empathie. Elle dit, mais alors, c'est quoi cet exercice ? Mais alors, tu comprends pas, mère, tu comprends ? Putain, mais je me tue là pour comprendre, toi, tu t'en fous, ça se voit que tu t'en fous. Et le gamin était là, et je sens que ça monte, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment, elle le prend comme ça, excuse-moi, tu vas faire l'enfant de sixième. Elle le prend, elle dit, quand tu fais ça, j'ai envie de te claquer. Comme ça, à côté de moi. Je me dis, bon, faut que je dise un truc. Et donc, je dis, madame, vous pouvez pas dire ça, en fait. Alors là, tout le wagon se tait d'un coup, évidemment. Et elle me regarde, et elle est toute rouge, parce que la pauvre, elle s'est énervée depuis 10 minutes contre son gosse. Et donc elle m'explique, quoi. Et c'est marrant, les gens se justifient. Oui, mais aussi, il m'agace, non, il veut pas. Je sais, oui, je comprends, c'est dur, mais... Donc, en fait, elle m'a envoyé chier, clairement. Elle m'a dit, c'est pas votre enfant, je fais ce que je veux. De toute façon, c'est le truc qu'on vous dit tout le temps. C'est mon enfant, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ce que vous allez entendre, c'est pas grave. Alors, c'est faux, déjà, parce que l'enfant, il ne vous appartient pas. Et donc, c'est monté comme ça. J'étais avec mon conjoint qui, du coup, s'est engueulé avec le père qui disait, c'est nos enfants, on fait ce qu'on veut. Tout le monde, voilà, ça s'est enflammé. Et d'un coup, paf, tout le monde s'est tué. Donc, moi, j'étais avec ma petite fille de 3 ans. Et je lui ai dit non, enfin là, j'aide pas. Donc, les yeux des enfants, ils étaient deux ados, là. Le sixième et l'autre, elle était en quatrième. Et ils étaient comme ça, au fond de leur siège. Parce que je pense qu'ils se sont dit, c'est qu'ils se sont dit, merde, c'est notre faute, en fait. Je sais que ce gamin, il s'est dit ça. Merde, c'est de ma faute. J'ai créé des problèmes à ma mère, quoi. Je me suis dit, bon, j'ai dit, on n'avait pas le droit de menacer les enfants. Je leur ai dit, on ne peut pas menacer les enfants, c'est interdit. On menace personne, ne frappez personne, etc. Et puis, c'est redescendu. Je me suis dit, bon, il faut que j'y retourne. Je lui ai dit, mais vous voulez que je l'aide à faire son exercice de maths? Elle m'a dit, oui, je veux bien, oui. Je lui ai dit, enfin, si t'as envie, jeune homme, t'as envie? Oh, lui était, je sais pas, comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et donc, on a échangé de place. Je me suis mise à la place de la mère, elle s'est mise à ma place. Donc, elle a joué avec ma fille. Et donc, moi, j'ai fait l'exercice de maths avec ce garçon. Tout ça pour vous dire que c'est possible. On peut intervenir, que ça se passe pas trop mal. Mais je sais qu'au fond, je pense qu'au fond, cette femme m'en veut. Voilà, je pense que si elle voit un jour ma tête, elle ne va pas s'en souvenir comme quelque chose de positif. Je pense qu'elle m'en veut parce que, bah oui, c'est un peu humiliant quand quelqu'un vous dit devant tout le monde que vous ne parlez pas comme ça à votre enfant, en fait, c'est humiliant. Mais j'ai essayé de retourner le truc aussi pour dire il ne suffit pas de se juger entre nous, qui sont les bons parents, qui sont les mauvais parents maltraitants, on peut tous craquer et péter un câble. Et le but, c'est de s'entraider, quoi. Et donc, vraiment, je fais encore... je finis, après, j'arrête. C'est un one-woman show. Mais... c'est un peu comme dans les luttes féministes, quand on veut aider une personne qui est agressée. Donc maintenant, on a appris ces trucs-là. Il ne faut pas être frontal avec l'agresseur, mais il faut plutôt aller vers la victime. Ça va Ah, mais tu te souviens de moi, on s'était vu. Voilà, pour casser la dynamique, ben, je pense qu'avec les enfants, c'est pareil, il faut parler aux enfants, quoi. Et peut-être que maintenant, je me dis, au lieu de dire ça à cette mère, j'avais vraiment envie de le dire, hein, donc je ne regrette pas, mais j'aurais peut-être dû aller direct vers l'enfant. Ça va, est-ce que tu as besoin d'aide? Je suis super forte en maths. Pas du tout. Tu veux que je t'aide? Et ça aurait peut-être cassé ce truc-là, et en fait, ça aurait était un peu la même chose, même si je pense qu'il faut dire en fait aux gens qu'on peut pas menacer les enfants. À un moment, il faut le dire, quoi. On peut pas dire à un enfant, j'ai envie de te claquer. Enfin, c'est pas possible. On peut pas. Et je sais que parfois c'est dur, mais on peut pas. Donc voilà, tout ça pour dire, défendons les enfants. Et il faut que les enfants entendent ça, parce que je pense que ce gamin aussi il savait pas que sa mère avait pas le droit de le frapper. Je sais pas s'ils se font vraiment frapper ces enfants-là, mais je pense qu'il sait pas. Donc les enfants, ils sont persuadés que quand ils font des conneries, et c'est ce qu'on entend. Dans le podcast, c'est de leur faute, quoi. Oui, mais j'avais fait une grosse bêtise. Oui, mais j'avais fait péter un câble à ma mère. Oui, mais je l'avais humilié en plein dans le supermarché. Donc, ils sont toujours persuadés que c'est eux. Et donc, juste dire aux enfants, en fait, là, c'est pas de ta faute. Oui, c'est très énervant pour un parent, mais là, c'est pas de ta faute, en fait. Et ça, ça leur fait du bien. Et je pense que ça les aide à mieux grandir et à être plus résilients vis-à-vis de la violence qu'ils ont reçue aussi, enfants. Voilà. Soyons ces adultes-là. Pétons des câbles sur nos enfants et protégeons les enfants des autres.
Je crois qu'on peut conclure avant la vidéo sur ces deux idées que soyons légitimes et incarnons cette égalité et cette posture en tant que parents. C'est possible. Avant de donner la parole au public, Maxime, s'il te plaît, on va vous partager une vidéo de Lucie Béguin, qui est parent et membre de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens et qui milite notamment pour une plus grande reconnaissance des vécus des familles qui s'inscrivent en dehors du modèle familial hétérosexuel.
Je fais partie de l'APGL, qui est une association qui regroupe les familles homoparentales. Plus en particulier, je fais partie du comité de lecture qui a remis à jour une bibliographie qu'on essaie de tenir actualisée en fonction des différentes parutions dans le domaine le plus possible. Alors, cette démarche de travail, qui était un gros travail de bibliographie, elle a répondu à une double nécessité. D'abord, en tant que parent, on se rend assez vite compte, hein, quand on est un couple homoparental, que nos enfants ont besoin de références culturelles à leur modèle familial. L'autre aspect, c'est le fait que, en tant que famille homoparentale, on se rend bien compte que 10 ans après le mariage pour tous, 2-3 ans après l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, dans le quotidien, on fait bouger des lignes, on fait réagir les gens simplement par qui on est, donc même sans le vouloir. Je vais commencer par une anecdote qui est arrivée à ma fille il y a quelques années quand elle était en moyenne section. Enfin, en fait, deux anecdotes. La première, elle discutait en classe avec des camarades de son modèle familial et elle a dit « j'ai deux mamans ». Et un camarade a répondu « non, c'est pas possible ». Et ce qui est assez cohérent hein, socialement par rapport au modèle que peuvent avoir les enfants. La maîtresse passée par là, elle a pu soutenir ce que disait ma fille. Mais dans leur sociabilité de tous les jours, les enfants, la plupart du temps, ils sont seuls. Et justement, la deuxième anecdote, c'était dans le cadre où les enfants étaient seuls, et ma fille me l'a raconté bien après que ça lui soit arrivé, d'ailleurs. Elles étaient entre copines, et elles se disaient qu'elles s'aimaient. Et un garçon, entendant ça, a dit « non, c'est pas possible, deux filles ne peuvent pas s'aimer ». Et ma fille a répondu « si, si, c'est possible, d'ailleurs, dans le livre « Princesse Pimprenelle se marie », bah, la princesse Pimprenelle, elle est amoureuse d'une fille. En tant que parent, c'est vrai qu'on se dit c'est une lourde charge sur les épaules de nos enfants. Il faut absolument qu'ils aient des outils pour pouvoir vivre ça sans se sentir écrasés par les normes dominantes. Les choses ont bougé depuis les 10 dernières années. Le monde de l'édition s'est emparé de ce qui est devenu un marché en fait pour eux. Hein. À notre connaissance, la plupart des grandes éditions ont à minima, leur livre sur la diversité des familles. Je vais vous en montrer un qui est assez sympathique. Et toi, ta famille, c'est un groupe d'enfants qui discutent sur leur modèle parental et qui est plutôt bien fait chez Alice Jeunesse. On peut remarquer dans ce domaine plutôt de la fiction, puisque ce dont je viens de parler, c'est proche du documentaire, deux approches complémentaires. Une première approche qui consiste à aborder frontalement les questions auxquelles sont confrontés les enfants issus de familles homoparentales. Je peux en donner un exemple ici qui a eu un certain succès. Et c'est une traduction hein, qui a été publiée par les excellentes éditions Talent Haut, Mes deux mamans. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui invite un camarade à la maison, qui constate que son ami a deux mamans, et lui pose de manière insistante la question « mais c'est laquelle ta vraie maman ?» Évidemment, cette petite fille n'a pas du tout envie de répondre à une question posée dans ces termes-là. Elle le balade un petit peu de manière assez humoristique. Et c'est une façon très belle, je trouve, d'aider nos enfants à dédramatiser une question à laquelle ils sont confrontés assez fréquemment. L'autre type d'approche qui est complémentaire, c'est celle qui est la devise, en quelque sorte, d'une maison d'édition. On ne compte pas pour du beurre, dont la première publication, c'est Lila, la voix bleue. Lila, c'est une petite fille dont il se trouve qu'elle a deux mamans, mais ça fait juste partie de l'arrière-plan, et ça n'est pas le sujet. Donc deux approches, approche qui est partagée par d'autres ouvrages, hein, que vous pouvez trouver sur notre biblio, sur le site apgl.fr. Alors, cette bibliographie, on a voulu que ce ne soit pas une simple liste d'ouvrages, mais une bibliographie critique, c'est-à-dire avec un avis argumenté qui accompagne la présentation du livre, avis qui est pris de manière collégiale au sein du comité de lecture. Nous avons deux bibliographies, une qui est générale, la plus complète, et qu'on trouve sur le site dans l'onglet « Homoparentalité ». Et celle-ci est organisée selon une logique qui répond à ce que recherchent nos adhérents prioritairement, c'est-à-dire nous on est une famille à deux papas, mais il y a une rubrique deux papas, nous on est parents solo, il y a une rubrique parents solo. Notre préoccupation c'est plutôt d'expliquer à notre enfant comment il ou elle a été conçu, on a fait une rubrique là-dessus. Alors on a aussi deux autres rubriques qui nous paraissent essentielles, même si elles ne touchent pas forcément directement les questions d'homoparentalité. Une rubrique sur la question des genres, qui s'attaque aux stéréotypes de genre, et une rubrique d'ouvrages présentant des personnages LGBT+, parce que les questions de genre, le sexisme, c'est l'origine de l'homophobie. Donc tout ça, pour nous, est lié et fait partie de nos histoires familiales. Nous avons mis au point une mallette donc, qui reprend les titres les plus importants de la bibliographie. J'ai oublié de dire qu'il y avait une deuxième bibliographie dans toujours homoparentalité, mais ressources pour les enseignants, et qui fait une entrée plutôt à destination des professionnels par fourchette d'âge. On l'a appelée bibliographie éducation nationale, ce qui est une erreur qu'il faut qu'on rectifie. puisque ça s'adresse à tous les professionnels qui interviennent dans le domaine culturel auprès des enfants. Tous les partenaires auxquels nous, en tant qu'association et en tant que parents, on peut avoir à faire. Donc on a mis au point une mallette hein, avec une vingtaine de titres les plus emblématiques qu'on utilise à l'interne dans des rencontres conviviales, etc. Il y a une mallette par antenne régionale, donc ça peut être des temps de lecture pour les enfants, ça peut être des prêts aussi au sein de l'antenne, mais on peut aussi se présenter avec la mallette auprès d'une mairie et lui proposer des interventions auprès des bibliothèques et des médiathèques. Ça fait partie effectivement de notre rôle de parents, il nous semble, d'apporter des outils de qualité à tous nos partenaires de la vie sociale, civile, qui sont en recherche voilà, d'outils sans forcément les connaître.
Merci beaucoup, Lucie, pour ce témoignage.
Merci, Violaine.
Voilà, on a souhaité terminer cette table ronde sur justement une initiative enthousiasmante de la part de parents engagés et militants qui se mouillent et qui partagent aux autres parents des ressources utiles et accessibles. J'entends le gong, Jolène. On va passer du coup aux questions, très rapidement.
Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une question concernant les parents qui s'excuseraient après s'être comportés, peut-être comme l'exemple dans le train, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de revenir un peu sur son emportement, de l'expliquer? Est-ce que pour des enfants, ça peut sonner comme contradictoire et susciter de l'incompréhension ou plutôt être bien reçu? Enfin, voilà, là-dessus.
Ah, moi, je pense que c'est indispensable et je pense que ça change tout. Voilà, de manière un peu radicale. Parce que en fait, on est humain, on a le droit de se tromper, on a le droit de s'emporter, on a le droit de ne pas toujours avoir la patience, etc. Mais ça change tout de dire à son enfant, écoute, là, j'ai merdé, en fait, c'est ma faute. Et je suis fatiguée, et j'ai pas la patience, et machin, et je suis désolée. L'enfant, il comprend quoi? Un, que c'est pas de sa faute, et deux, il comprend que lui, il peut aussi s'excuser quand il merde avec les autres, en fait. Désolée, je dis beaucoup de gros mots. Mais oui, pour moi, c'est indispensable. On sera jamais des parents et des profs, hein, qui ne s'énervent jamais, ça n'existe pas. Qui ne sortent jamais de leur gond, ça n'existe pas. Par contre, on peut toujours s'excuser. Moi, je le fais avec mes élèves, je le fais avec ma fille. Après, il ne faut pas que ce soit un truc, je te refous une et je m'excuse deux secondes après, et puis je te refous une. Ben voilà, c'est pas. Il faut que ce soit sincère, évidemment. Mais je pense que c'est indispensable et que l'enfant, il n'est pas du tout perturbé, au contraire. Il écoute attentivement et dit « Ah, ok, j'ai compris. » Et du coup, il va passer à autre chose beaucoup plus facilement et mieux grandir, évidemment.
Merci beaucoup. Alors, normalement, on devrait arrêter, mais vous laisse quand même poser votre question avec une réponse de une phrase, si vous voulez, parce que je devrais clôturer. Donc, on va, comme je suis tentée, moi aussi, évidemment, de prolonger, hein.
Merci beaucoup. Question courte. Et quel conseil vous nous donneriez pour convaincre les enseignants, enseignantes de mettre en place les séances d'EBRAS?
Ça, c'est hyper important, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
Merci pour cette question.
Ouais, merci, c'est vrai, c'est dans la loi. Donc en fait, je dis aux enfants et je dis aux parents de réclamer cet enseignement dans leur école, auprès de leur maîtresse, auprès des directions, de dire, mais enfin, vraiment, il faut réclamer, en fait, c'est la loi, et les enfants y ont droit. Il y a une super campagne de Move Enfant là, qui colle des étiquettes en disant, c'est ton droit, réclame-le, il faut le réclamer. Donc c'est peut-être un peu dur, en tant que parent, d'y aller tout seul, de faire un peu les parents chiants de l'école. Vous faites quoi sur l'éducation sexuelle? Donc je pense qu'il faut se mettre à plusieurs familles, et dire, ok, on est tous d'accord, on est 3, 4, 5 familles, ok, et ben on va demander qu'est-ce qui est fait, est-ce qu'il y a une programmation, comment ça se passe, est-ce qu'on peut aider, voilà, pas être vraiment dans ce truc de... je dis à l'école ce qu'elle doit faire, mais plus ouais, on propose d'aider si jamais on aimerait bien que ce soit fait dans l'école. Réclamez-le, et je pense que beaucoup plus d'écoles le feront. Une autre question? C'est pas possible.
Alors, dernière question.
Comment convaincre ses collègues, la question?
En tant qu'enseignant, comment convaincre ses collègues? Réponse que je reformule.
Et le boulot. Non, mais de toute façon, on peut pas convaincre tout le monde. Ah ouais, bah c'est encore très solitaire, malheureusement, l'EVRAS, c'est très dur de convaincre tout le monde. Moi, je pense qu'on ne peut pas convaincre tout le monde. Déjà, il faut y aller solo. Après, il faut trouver des alliés, c'est plus ça. C'est trouver un ou deux alliés, la direction, c'est encore mieux, mais un ou deux profs qui sont avec nous, il faut se soutenir. Et je pense que ça va faire des... ça va faire des émules, mais il faut y aller. Il ne faut pas attendre que tout le monde soit convaincu, sinon on ne le fera jamais.
Je voudrais clôturer là. Les parents qui viennent vont aider les enseignants.
Exactement,
et les
enseignantes
on va
tous se souvenir. En fait, on est plus nombreux.
Désolée,
quoi.
Faut vraiment faut y aller. Si des participants veulent continuer à discuter après, merci beaucoup. Là, on va avoir un temps un peu artistique avec une chorale ici, dans une chorale féministe dans 15 minutes. Et il y aura à 16h15 le spectacle Rouge Carmin à la MJC. Et un pédibus va partir.